Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 802 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 place de la Madeleine. Et je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9. On peut se retrouver également sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec un zoom sur la Bourgogne, cette belle région. Les progrès des vins chinois. Dominique Destouches, le fondateur de l'Académie internationale des vins en Alsace, et puis un duo magique, le vin et le végétal, on en parlera tout à l'heure. À mes côtés, Hélène Piau, Claire Brachet, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour bien commencer, ça va Claire, tout va bien?
Très bien.
Bon, avant, pour bien commencer cette émission, une vidéo sur Radio, accueille justement Hélène Piau, journaliste au magazine Régal, avec le Vino Quiz, Hélène.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. La semaine dernière, la question était: Pierre Hermé a inauguré en 1998 sa toute première boutique à Paris, Londres ou Tokyo? La bonne réponse était la troisième, la réponse C, Tokyo.
Les Japonais qui nous devancent, y compris en matière de chocolat. Hélène, cette semaine?
Cette semaine, Dominique Destouches vient de créer l'Académie internationale du vin. Mais où? A en Alsace, B en Lorraine ou C en Franche-Comté? Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, oh, rubrique Vino Quiz.
On adore les hôtesses de l'air.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Piau. Alors David Cobol, vous qui avez cofondé l'Académie du vin de Paris, ces Chinois, ils progressent en matière de vin ou pas?
Ah oui.
Ah oui?
Oui, oui, en volume et en valeur. J'ai eu l'occasion de tester un peu la valeur, enfin la qualité de quelques vins chinois. C'est quand même pas énorme comme dégustation. J'ai goûté 9 vins. Il y avait un 10e, mais il était bouchonné malheureusement. Ça arrive en Chine comme ailleurs. C'est le problème de ces bouchons en liège, quoi. Et je trouve ça intéressant parce qu'on parle énormément de la Chine en tant que marché. Il ne faut pas oublier que c'est le premier marché tout court pour les vins de Bordeaux aujourd'hui, devant la France. C'est le premier marché mondial pour les vins australiens. Et puis les autres pays essayent de garder ou de gagner une part de ce gâteau immense, parce qu'il s'agit bien d'un gâteau immense.
Oui.
Même si tous les Chinois ne boivent pas du vin, même s'il n'y a que 200 millions à peu près qui boivent du vin, bah, c'est la taille du marché américain. Alors, sur le plan statistique, comme toujours, les statistiques ne veulent rien dire, mais on estime qu'un Chinois boit... une fois ou deux fois par an...
Un verre de vin ou une bouteille?
Un verre de vin. Donc, bon, ça fait beaucoup de verres de vin.
Beaucoup de verres de vin.
Et puis, potentiellement, s'il boit deux bouteilles, bah, ça fait beaucoup, beaucoup
de bouteilles
de vin. Alors, donc, cette affaire m'intéressait à ce titre-là, parce que je trouve qu'un peu d'échange, c'est une très bonne chose. On parle beaucoup, oui, le marché chinois, ça nous intéresse. Et puis, hop, quand il y a des marchés, des vins chinois ou des Chinois qui viennent acheter des domaines en France, on crie des cris d'orfraie
oui.
En disant...
Qui reste chez eux?
Alors, c'est absurde. Il faut quand même relativiser. Alors, à Bordeaux, il y a 6600 propriétés. Si on compte toutes les propriétés à Bordeaux, y compris ceux qui sont dans l'enceinte des caves coopératives, ça fait 6600. Il y a eu 146 propriétés achetées par des Chinois et pas des très grands.
Oui, en pourcentage, c'est quand même...
Et on estime qu'une quarantaine sont déjà à revendre. Donc, voilà, c'est epsilon.
Donc le péril jaune dans le rouge, vous n'y croyez pas?
Non,
quoi.
Je n'y crois pas. Je trouve que c'est un excellent marché pour le vin et plus les Chinois en boiront, mieux ça serait pour le monde du vin en général.
Parfait, David.
Alors, aussi, l'affaire de l'éducation joue un très grand rôle parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est nouveau pour le vin, pour la consommation du vin. Moi, je constate dans nos cours à l'Académie du vin de Paris, très modestement, qu'on a presque toujours un Chinois dans chaque cours, ou une Chinoise, beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Le WSET, c'était l'organisme dont on dépend pour nos cours.
Ça veut dire quoi, ça?
Wine and Spirit Education Trust a ouvert un bureau à Hong Kong, parce que la Chine est maintenant le premier marché pour la formation. Il y a des Master of Wine chinois. Il y en a une, plutôt.
Ils sont doués comme nous? Ils sont c'est équivalent?
Oui, ils sont très bosseurs, plus bosseurs que nous, et tout à fait doués ou capables d'assimiler le vin. Il n'y a aucun problème à cela. Alors, j'étais intéressé de goûter les vins, parce que la dernière fois que j'avais goûté des vins chinois, c'était à Hong Kong, lors d'un Vinexpo, il y a pas mal d'années. Je n'étais pas franchement très impressionné par le niveau, sauf pour un seul domaine, Grace Vineyards. Et là, c'est un couple franco-chinois. Lui, il est français et elle est chinoise. Il est responsable, il a lancé la version chinoise de la Revue de Vin de France en Chine il y a 11 ans. Ça fait 11 ans qu'il habite le pays. Ils sont mariés, ils ont deux enfants. Il a déjà travaillé pour les vins français là-bas. Et là, il essaye de faire l'inverse et proposer modestement quelques vins sélectionnés chinois en France. Alors, il ne faut quand même pas surestimer le marché. C'est un micro marché. C'est une niche dans une super niche. Et il y a quelques handicaps quand même. C'est d'abord le prix. Il ne faut pas oublier que la plupart des vignobles en Chine sont récents. Ils sont donc issus d'un investissement de businessmen ou businesswomen, très souvent d'ailleurs chinoises, qui ont acheté des terres, qui ont acheté du matériel. Ça coûte très cher l'importation de matériel
sûr,
en
oui.
Chine. Et qui veulent du coup un retour sur investissement. Donc je dirais que les vins ne sont pas très compétitifs sur le plan du prix quand on les compare à des vins du même type et style. Les cépages sont en général français, beaucoup de cépages bordelais, aussi bourguignons, quelques cépages d'ailleurs, mais c'est assez rare, et un cépage qui est un métis français entre le cabernet et le grenache, qui est le marcelan, qui est très planté, qu'on trouve maintenant dans les vallées du Rhône. J'ai goûté des vins de trois domaines. Je vais vous donner quand même quelques noms, parce que comme les vins vont être importés, il ne faut pas oublier la Chine est aujourd'hui le 7e producteur mondial,
donc
globalement.
Oui, donc on se rapproche, quoi.
Mais la Chine consomme tous ses vins. 20% des vins consommés en Chine sont des vins d'importation. Le reste, c'est des productions libellées, vins de Chine. Alors, il faut quand même s'entendre sur ce que ça veut dire, vins de Chine, puisque s'il y a 10% de vins chinois dans une bouteille
c'est
libellée,
bon,
vins de Chine,
chinois.
Ça devient chinois.
Ouais.
Donc, c'est un peu bizarre.
Il va plutôt quoi, David ?
Mis en bouteille en Chine.
Oui, mis en bouteille en Chine.
C'est ça,
voilà.
C'est...
Donc, il y a beaucoup de vrac.
C'est plutôt du blanc, du rouge, du rosé ?
Alors, il y a de tout. J'ai goûté des blancs, des rouges, des rosés, et même une très jolie bulle. Donc, je vais vous donner le nom de quelques châteaux que je trouvais intéressants. Château Rongzi. Alors, Château Rongzi se trouve dans les régions, il faut parler des régions, c'est la région de Shaanxi. Shaanxi, c'est à l'ouest de Beijing, ou Pékin, et à l'ouest de Hebei, qui est la région autour
vous
de Beijing.
Vous connaissez Hebei,
oui.
Vous êtes parti en vacances là-bas, non ?
Mais j'y étais encore hier matin, j'y retournerai bien avec vous, Alain Marty.
Allez, c'est parti.
Alors, Château Rongzi a fait de très jolis vins. Il y a un château qui s'appelle Château Amatillard, dans la région de Hebei. Là, j'ai goûté un très joli chardonnay. Le blanc de Rongzi était un assemblage chardonnay-riesling qui est inhabituel et qui
oui.
fonctionnait un peu comme certains blancs secs de Loire, de Touraine, par exemple. C'était un peu dans ce style-là. C'est-à-dire assez vif, assez léger, bien équilibré, pas du tout lourd, mais ça vaut entre 15 et 20 euros
c'est
prix
cher,
public
David,
en France. Ce qui, pour ce style de vin, est vers le haut de gamme.
Oui.
Voilà. Alors,
c'est cher aussi pour les Chinois, non ?
Non. Parce que le problème en Chine, une des raisons pour ce positionnement très élevé de prix, il y a le retour sur investissement, mais il y a aussi le fait que pour un Chinois moyen qui achète du vin, au prix égale qualité.
D'accord.
C'est aussi simple.
C'est cher,
ça.
Meilleur, c'est ça.
Ben oui, c'est ça. Donc on a des prix parfois délirants. Là, les prix de ces vins qu'ils ont bien sélectionnés ne sont pas délirants, mais ils sont quand même en haut du panier par rapport à leur style. Alors pour les rouges, aussi des assemblages majoritairement bordelaises. Château Rongzi, encore lui, il a présenté 4 vins, donc j'ai aimé 2 des 4. Mais c'est 35 à 60 euros.
Quand même. Merci voilà. beaucoup, David Cobol. On va
Et puis dernièrement,
sur la
une
Chine,
bulle,
régulièrement.
Une bulle quand même. Silver Heights aussi, dans le Nongxia. C'est un très joli vin. Et puis, il y a aussi des bulles qui sont plus qu'acceptables. Je pense qu'on verra dans les années à venir de plus en
à
plus
suivre.
De bons vins chinois.
Merci beaucoup, David. Divino Sud Radio retrouve Philippe Aubrac, notre meilleur sommelier du monde, à nous. Et là, on part en Bourgogne. Hein, c'est... La Chine, vous connaissez bien la Chine, non, Philippe ?
La Chine, je suis allé, effectivement. J'ai eu la chance d'aller être dans un certain nombre de domaines qui viennent d'être cités par David. Et c'est vrai qu'on sent une belle évolution.
Ils sont sympas, les vignerons chinois, ou pas ? Est-ce qu'ils sont souriants ?
Ils sont souriants. On ne sait pas trop ce que veut dire le sourire, mais en tout cas, ils sont souriants. Après, on a du mal, des fois, à les comprendre. Mais quand on goûte leur vin, on s'aperçoit qu'ils sont... Franchement, de mieux en mieux.
Bon, est-ce qu'ils sont plus souriants que les bourguignons ?
Ils sont... Bon, c'est différent, le bourguignon, ils ont le sourire au fond du verre, notamment. Hein. Et donc, j'ai envie de parler de la Bourgogne, et même de l'appellation Bourgogne, tout simplement. Souvent, exactement, David mime, effectivement, le banc bourguignon. J'ai souvent eu l'occasion de parler de toutes les grandes communes de Bourgogne, etc. Mais finalement, l'appellation communale vaut la peine aussi. On s'aperçoit que c'est digne d'intérêt, et surtout, il y a des petites pépites à des prix très accessibles. Il y avait une dégustation organisée il y a quelques jours à Paris. Ça s'appelait Grand Bourgogne Hôtel. C'était très original comme dégustation. C'est le bureau interprofessionnel de vin de Bourgogne qui avait organisé ça. C'était judicieusement installé. Et le deal, c'était amener des Bourgognes et faire goûter des Bourgognes qui étaient à moins de 15 euros prix consommateur. Ce qui est quand même pas évident. Alors, beaucoup ont apporté des Bourgognes génériques, mais il y avait aussi des appellations comme Chablis, finalement, qui peuvent être accessibles, des vins du Mâconnais, ou même des appellations communales comme Santonnet ou Chauray, qui finalement arrivaient à des prix très acceptables.
Et des hautes cotes.
Et des hautes cotes, exactement, de nuit et de bonne, qui étaient vraiment très, très bien aussi. Donc j'ai fait une petite sélection, j'ai goûté plein de choses. C'est-à-dire, c'est une appellation qui peut être revendiquée partout en Bourgogne, de Chablis jusque dans le Beaujolais. L'appellation Bourgogne. Et on y trouve
dans
essentiellement.
Le Beaujolais aussi ?
Oui, exactement, parce qu'on peut revendiquer l'appellation Bourgogne en Beaujolais. Pour les crus, par exemple, qui ne déclarent pas en cru, peuvent revendiquer le Bourgogne. Donc on peut avoir des Bourgognes de Gamay.
À condition d'avoir du Pinot Noir.
Non. Et non. On peut avoir du Gamay, justement. Gamay, c'est ça qui est intéressant.
Sous l'étiquette Bourgogne.
Sous l'étiquette Bourgogne, y compris le Mâcon Rouge, par exemple, qui peut être, lui, élaboré à partir de Gamay. Donc quand on goûte essentiellement des Pinot Noir, mais également de l'appellation générique, la possibilité de trouver du Gamay. Alors parmi les domaines qui m'ont un peu interpellé, pour les rouges, je reviendrai un jour sur les blancs, mais en blanc, on le sait, mais dans les rouges, c'est pas toujours simple de trouver des choses accessibles. Dans le Mâconnais, par exemple, le domaine Chanzy. J'ai goûté son Clos Michaud, franchement, il est à Bergeron. Alors, le Bergeron, c'est blanc, c'est de la ligotée, mais le rouge était remarquable. Domaine Chevalier, alors je passe un peu du coq à l'âne, histoire de vous donner quelques idées. Le domaine Chevalier à Ladois, par exemple, Claude Chevalier, qui est, je ne sais plus s'il est président, ou il a été président, en tout cas, du bureau des vins de Bourgogne, son Ladois, son Bourgogne générique 2017,
je crois 12 euros. Claude Chevalier, je dirais les filles de Claude Chevalier.
Oui, maintenant, c'est plutôt les filles qui s'occupent du
mais
domaine.
Lui, effectivement, il a une fonction, je crois qu'il est président de la commission de communication.
Exactement, lui, il est très appliqué toujours.
Mais néanmoins, il continue à faire du bon vin au domaine. Le Clos du Roi, ça c'est à Coulanges, donc c'est dans la partie nord, près de la région chablisienne, notamment en 2015, la cuvée Champvent. Le domaine de la Folie, qui fait partie des jolies propriétés bourguignonnes, avec le Clos de Bellecroix 2017.
C'est en côte chalonnaise.
Côte chalonnaise. Jossium, qui est du côté de Santonnet, qui fait un Bourgogne générique, franchement, tout à fait remarquable. J'ai goûté dans le Misime 2017. Marc Jambon, on évoquait tout à l'heure le Mâconnais, du côté de Pierre-Claude, notamment. Il m'a fait goûter son Mâcon Pierre-Claude 2015 en Gamay, à moins de 15 euros. Franchement, ça goûtait vraiment très très bien. Le Château Laborde, on parlait des Hautes-Côtes, effectivement, dans les Hautes-Côtes de
Nîmes. C'est une bonne nouvelle, Philippe, des bons Bourgognes, pas trop chers.
Mais oui, la QVK, ça vient du domaine, le domaine s'appelle le Château Laborde, le propriétaire Hervé Kerland, d'où la fameuse QVK. J'ai goûté en rouge et fait une petite exception, j'ai goûté aussi le blanc parce que j'étais concentré sur des rouges, qui est remarquable. Et pour terminer, une maison de négoce très célèbre, la maison Jadot, avec le domaine Croix de Perrières, dans le Misime 2015, que je vous recommande aussi.
Merci beaucoup, Philippe Verbrack, et merci à tous. Dans un instant, nous ferons la rencontre de Dominique Destouches, un garçon formidable. Fondateur de l'Académie internationale des vins. Nous serons en Alsace.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Dominique Destouches. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors racontez-nous, le vin c'est un peu génétique chez vous. Alors, il y a le grand-père et côté paysage, c'était votre père.
Si l'on veut, le vin ça remonte au 16e siècle. Mais c'était pas le vin tel qu'on le voit aujourd'hui en Champagne. C'était plus modeste.
Votre grand-père était en Champagne.
Voilà, et mon grand-père, l'histoire du vin remonte au XVIe siècle à Louis Le Breuil. Et mon grand-père était tout simplement un apporteur de raisins à une cave coopérative en Champagne. Mais il avait de multiples activités et il travaillait 2 hectares de vignes.
Ouais, parce qu'à l'époque, ça ne suffisait pas pour vivre. Donc c'était la polyculture en Champagne. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais la Champagne a été pauvre.
Effectivement.
Alors vous, c'est en 1990, Dominique, vous avez créé donc votre société avec un gentil banquier qui vous a prêté 100 000 francs à l'époque.
Oui, et il était gentil puisque j'ai dû taper à 8 banques.
Et les 7 qu'on est non ?
J'étais prêt à aller jusqu'à 20 banques, 30 banques, 40 banques.
C'est quelle banque, on peut la souligner
Crédit Mutuel.
Donc, Crédit Mutuel. Merci, bravo. Alors aujourd'hui, le résultat est bien parce que vous allez dépasser donc, cette année les 7 millions de bouteilles vendues dans le monde. Votre gamme, Dominique, elle n'est pas que alsacienne.
Non, l'Alsace représente 20% du volume total. Le plus gros volume est lié à des partenaires vignerons, surtout de la France.
Dans toutes les régions.
Dans toutes les régions, qui, pour une grande partie, ne faisaient que de l'apport de raisins. Et au fur et à mesure, on les a motivés pour qu'ils fassent leur mise eux-mêmes. Et du coup, on travaille des récoltes entières, que ce soit dans la Loire, dans le Bordelais, dans le Beaujolais. Et c'est des histoires qui durent depuis plus de 20 ans, avec 80% de mes producteurs aujourd'hui, des c'est toujours les mêmes.
Quelque part, quoi. Vous avez aussi acheté un château à Bordeaux ?
Oui, il y a 10 ans, oui. Château de Luc Régula, qui remonte au XIIe siècle. À l'époque, c'était un seigneur qui prélevait les droits de péage de la Garonne.
Ça vous a plu, ça ?
Et déjà, à l'époque, on a retrouvé des traces très sérieuses hein, au cadastre où on parlait du mal manger et du mal boire.
Ah quoi. Oui, mal manger, mal boire. Quoi. C'est... Et vous avez également des caveaux, pas forcément en France, mais alors c'est des caveaux magiques, hein, parce que ça coûte un petit peu de sous, tout ça. Hein.
C'est des caveaux un peu exceptionnels, surtout dans les zones frontalières, mais par rapport à des partenaires à l'étranger, il fallait que je leur fasse des modèles ici pour les exporter. Et entre autres, ces partenaires étrangers étaient dans l'impasse par rapport à des gens qualifiés. Ils m'ont aussi motivé pour créer une académie, pour former des gens sur mesure, pour gérer aussi des caveaux à l'étranger, entre autres la Chine.
D'accord.
Et la Slovaquie, la Thaïlande, le Japon, l'Italie. C'est tous des étudiants payés par des entreprises qu'on accueille oui. pour cette partie-là à partir de l'année prochaine.
Oui, parce que l'Académie, alors justement, donc ça c'est on va dire votre actualité. Quoi. Donc l'Académie internationale des vins, donc le concept c'est quoi ? C'est que ça ? Il y a d'autres choses ?
Non, à la base, pas que ça soit au niveau de la production ou au niveau de la commercialisation
oui.
ou au niveau de l'export, on se retrouvait dans une impasse. À savoir, on a beau à embaucher des personnes qui ont Bac plus 5, qui ont des masters doublés entre l'Allemagne, par exemple pour le commerce et la France, et puis on les embauche, et ces personnes pleines de bravoure, pleines de spontanéité, de bonne volonté, arrivent chez nous dans une impasse.
Oui.
Elles ne savent pas vendre. À côté de ça, on a beaucoup de vignobles à gérer, et on ne trouve pas des personnes sur mesure capables de gérer un vignoble de A à Z. Et on se retrouve dans des impasses, et on passe que par des sous-traitants. Donc l'Académie, c'était fabriquer sur mesure des personnes pour gérer des vignobles de A à Z,
d'accord.
et être dans la réalité de ce que l'on appelle le commerce.
Et vous êtes concurrent des autres formations qu'on peut trouver en Bourgogne ou dans le Bordelais, ou c'est complémentaire,
c'est
selon vous,
Dominique Touche ? C'est totalement différent. Il y a plein d'écoles, soit privées, soit universitaires. Si elles sont privées, ce n'est pas des diplômes universitaires.
D'accord.
Et là, la particularité puissante, c'est une initiative privée avec 300 partenaires vignerons d'un côté, 200 importateurs à l'étranger de l'autre,
oui.
et la grande distribution, et tout ça ramené à un niveau universitaire.
Oui, c'est formidable.
C'est-à-dire que les diplômes délivrés, pour cette première année, 84 étudiants, c'est des DU, des licences, et l'année prochaine, Master 1, Master 2, et trois autres licences.
Et l'objectif pour vous, c'est d'avoir combien d'étudiants ?
600.
À terme, des promotions de 600 ?
Oui.
Vous êtes basé où exactement, physiquement ? Cette académie, elle est où ?
Donc, on a racheté les locaux du siège social Adidas France à Landersheim.
Ah, très bien.
15 oui. minutes de Strasbourg, 6 plateaux de 1800 mètres carrés dans un contexte de nature absolument magnifique. Ça a coûté cher, puisque c'était certes une très belle entreprise, mais qui ne correspondait pas aux normes ERP.
Oui,
donc,
c'est
ce qui veut dire que chaque plateau,
quoi.
On prend un ticket à 1 500 000
ah, quand
euros.
Même. Combien coûte la scolarité ? C'est avec un étudiant qui s'inscrit chez vous, combien ça coûte ?
Ça va de 5 000 euros à 30 000 euros pour les doctorats.
À 30 000 euros pour les doctorats, donc. Et la tendance, ça serait d'arriver un jour à 600 étudiants, c'est ça ?
Oui. Après, c'est une volonté nécessaire pour absorber de façon équilibrée des étrangers. Parce que des Chinois, je pourrais en accueillir 600.
Oui, mais vous ne vous souhaitez pas... Il en faut un peu, mais pas que ça, quoi.
Il ne faut pas que ça dépasse un certain quota, donc il faut un peu noyer le reste dans la masse, quoi.
Ouais.
Et la Chine a beaucoup été désillusionnée des formations en France. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on stagne en ouais. termes d'étudiants, et beaucoup d'étudiants
chinois...
Vous parlez
dans le vin, en général ?
Même dans le vin. Et d'accord. en général, vont maintenant au Canada, vont maintenant
en
Australie,
en Angleterre,
États-Unis, etc. Et le repère pour eux, c'est devenu le prix. Est-ce que je retire une fois que j'ai mon diplôme, quoi.
Ouais. Et on peut se loger quand on est étudiant à Strasbourg, on peut se loger dans, pas loin de l'académie, ça ne coûte pas trop cher parce que c'est
la région,
le coût doit être total. Quoi.
La région est magnifique puisque la région s'est vraiment impliquée dans le projet, adapter tout ce qui est transport. Ensuite, on est en train de construire d'un côté 150 studios de très haut niveau, qualitatif pour que les étudiants puissent évoluer dans un cadre
agréable.
Qui, qui les invite à toujours vouloir progresser. Et puis là, il y a 39 sites du studio qui vont être livrés en avril, mais il y a beaucoup de logements vacants.
Merci beaucoup Dominique Destouches et bravo hein, pour cette belle initiative. Je rappelle que vous êtes le patron de cette belle société créée en 90, VPCF, et puis créateur de cette Académie internationale des vins qui en souhaite bonne chance. Une vidéo sur radio, on retrouve Claire Brachet. Claire, votre guide Brachet, il parle de quoi alors, votre guide, dites-nous.
Il parle de 50 domaines français qui produisent du vin uniquement avec du jus de raisin fermenté, c'est-à-dire sans aucun intrant.
D'accord.
Et il donne beaucoup de conseils aussi sur les accords mets vins végétaliens, c'est-à-dire on n'est pas condamné à manger du steak pour pouvoir boire du vin rouge.
Bon, très bien. Aujourd'hui, on se concentre sur les kakis. Les kakis et le colombard ?
Tout à fait. Ouh. C'est un mariage un petit peu inattendu et on n'en parle pas souvent. Parce que les kakis, notamment, je ne sais pas si vous voyez, sont des fruits oranges, tout ronds.
C'est un peu Hélène Piau, quoi.
Voilà.
Qui a un pull orange pour ça.
On est en plein dans la
vous
saison.
Vous n'êtes pas un kaki, vous, Hélène, hein ?
C'est ça.
Kaki. Hein.
D'ailleurs, j'adore le colombard.
Ne poussez pas trop la
comparaison.
La comparaison, vous allez voir, ça risque de
moins. Ah bon, mince.
Ah, moi, donc je veux bien kakis... sucré, juteuse et acidulé, hein, ça me va.
Oui, mais blé, c'est pas sûr.
Ah non, blette, non, je...
Voilà.
Non.
Donc les kakis, c'est comme les coins, c'est joli, mais on ne sait jamais trop comment les cuisiner et qu'en faire. Comme le nom peut le laisser supposer, ça vient d'Asie, de Chine, et puis après c'est passé par la Corée et le Japon avant d'arriver notamment en France dans le sud. Ça se repère très facilement sur l'arbre, le plaque cheminier, pendant la pleine saison, donc en hiver, toutes les feuilles sont tombées, il reste uniquement les kakis, donc on a ces belles boules oranges qui restent sur les branches nues, donc on peut très facilement les repérer. Et ils ont une caractéristique, en fait, ces fruits, c'est qu'ils sont particulièrement astringents. Donc ça va vous faire énormément saliver si vous les mangez tels quels. Et il faut attendre,
Attendez, l'astringence, c'est le contraire de la salivation. C'est l'acide qui fait saliver. L'astringence, ça assèche la salive.
Bah, moi, ça me fait bon.
Ça peut valider.
Non, c'est de l'acidité dont vous parlez.
D'accord, donc c'est très acide. Et donc, bon. vous salivez.
C'est un peu astringent aussi.
C'est désagréable en bouche.
Ouais, les deux, ouais.
C'est désagréable. Et il faut attendre en fait que le temps fasse son effet, c'est-à-dire que le fruit mûrisse extrêmement pour que cet aspect désagréable en bouche s'atténue et qu'on puisse profiter du goût et du sucre. Alors pour autant, on ne va pas attendre qu'il soit pourri pour le manger, on ne va pas mettre sa santé en danger.
Très beau sujet aujourd'hui. Hein.
Oui. Mais on va attendre donc juste le bon moment, on va pouvoir le consommer soit à la fourchette et au couteau, s'il est bio en mangeant la peau, soit racler la chair en fait avec une petite cuillère et pouvoir le manger ainsi. On peut donc le manger cru, on peut le cuisiner, le transformer en compote. Il faut faire attention parce que ces dernières années, il y a des nouvelles variétés qui arrivent sur le marché, notamment le persimmon d'Espagne, qui ont la particularité de rester fermes. Donc, de fait, ils sont plus faciles à transporter et à stocker. Mais au passage, ils perdent en fait ce goût très caractéristique. L'autre possibilité aussi pour trouver un kaki qui ne soit pas blé, qui ne soit pas tout mou, c'est qu'en fait, il a été gazé avec du gaz carbonique ou de la vapeur d'éthanol. Donc voilà, ça c'est à garder en tête et il ne faut pas hésiter à aller vers un fruit qui semble très mou, mais c'est comme ça qu'il va être très bon. Côté cuisine, donc on peut par exemple faire un velouté kaki potimarron au curry, ça va très bien passer en salé. Côté dessert, le marier avec de la pomme et faire un cake. Et côté bouteille, si on va vers le vin rouge, on va aller vers le Zinfandel, qui est un cépage qu'on trouve rarement en France, mais il y a un domaine en France qui en produit.
Il y a un domaine, lequel ?
Oui, dans le sud.
Oui.
Ah oui, c'est bien ça. Et alors, ça donne quoi d'ailleurs, David ?
Très bon, moi j'ai goûté leur cuvée. Pendant très longtemps, ils appelaient ça la cuvée Zeb parce que les Zinfandel n'étaient pas sur la liste des cépages autorisés.
Ah oui.
Maintenant, ça l'est.
Bon, d'accord.
C'est dans quel coin ça ?
C'est dans le Languedoc.
Ah oui, Zinfandel, très bien.
Ou sinon, on peut aller vers le colombard, ce qui nous amène en fait à rester du coup dans la région du kaki, qui pousse essentiellement dans le sud-ouest. Donc on va continuer un petit peu la balade dans ce coin vert et humide aussi un petit peu, il faut bien le dire.
Il y a beaucoup d'anglais dans le coin. Hein.
C'est pour ça que c'est vert et humide.
L'anglais pousse à côté du kaki.
Là, je ne vais pas vous parler d'anglais aujourd'hui, on va aller dans le Gers, on va aller au domaine Le Bousca, à la rencontre de Floréal Romero, qui a un nom très, très, très poétique. Il est à la tête de ce domaine deux fois centenaire depuis 2001. Il a 8 hectares de vignes qu'il conduit selon les principes de la biodynamie. Alors, d'après la légende familiale, il descendrait de Miguel de Cervantes, donc l'auteur de Don Quichotte.
Ah oui, en toute modestie.
Voilà, bien. Vrai ou pas, en tout cas, c'est vrai que cette histoire s'accorde bien à sa vie et à sa façon de travailler en tenant coûte que coûte bon face aux éléments et en suivant ses choix.
Est-ce qu'il a une lance pour attaquer les moulins à vent ?
Ah non, on va éviter d'être trop violent quand même avec les gens qui viennent nous.
descendez de quelle reine, David, vous?
De roi.
Richard.
Ou Henri.
Alors, allons-y, Claire.
Et donc, il a plusieurs fois eu des soucis, notamment climatiques, financiers, mais il tient bon, et ça serait d'ailleurs dommage de se priver de ses vins. Alors, il a grandi en région parisienne, mais depuis donc une quinzaine d'années, il est installé dans un cadre très bucolique, avec des vignes vraiment épanouies, des ruisseaux, des forêts. Il vinifie 4 cépages, donc le Merlot, le Tana, l'Ouni Blanc et le Colombard. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du Colombard. La cuvée Maeva, qui est très dépaysante, qui est à la fois vive, ronde, amère, et qui donc relève le pari de s'allier avec le kaki,
bon,
qui est à
génial.
La fois...
Qui ça marche bien, quoi.
Oui, et 7,50€ quand même.
Ah, 7€, voilà.
Et oui, quand même, on va terminer.
Merci
sur le prix.
Merci beaucoup, Claire. Merci également, Dominique Détouche, Hélène Piau, David Cobol et Philippe Orbach. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin. On parlera des Bordeaux 2015-2016, de l'appellation Saint-Estève, de la Moldavie aussi, version Bacchus. Et on recevra un certain Bernard Marty. Voilà, d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.